On va vous demander de vous avancer. On va commencer bientôt. On s'excuse du retard, évidemment, à cause du baptême qu'il va y avoir ce matin. Merci. Merci, messieurs. Merci. Tu restes ici. Tu veux-tu me tenir ça? Parfait. Bouge pas.
Un doux
l'os. Oui, un doux l'os. Merci. Merci beaucoup. Bon matin tout le monde, ça va bien? Alors, écoutez, on a un cours ce matin. C'est sur quoi déjà? C'est quoi ce cours-là? Ah, le royaume de Dieu aussi. Aidez-moi pour me remettre dedans. OK, la semaine dernière, oh, quelle leçon. Quelle leçon extraordinaire. Très important sur un sujet qui est controversé, c'est-à-dire qu'il y a des positions différentes. On a enseigné sur quoi? J'ai enseigné sur quoi la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a étudié?
Israël.
Qu'est-ce que Israël aujourd'hui en 2011? Alors, la semaine dernière, on a étudié donc qu'est-ce que le Nouveau Testament enseignait sur Israël? On a vu que le Nouveau Testament réinterprétait les prophéties de l'Ancien Testament qui s'applique à Israël, en fait, et il les applique à l'Église. Dans Romains 2, 29, « Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, nous dit Paul. » Donc, ce sont les croyants juifs et non-juifs qui sont les vrais enfants d'Abraham et donc le vrai Israël. Malgré ça, Dieu n'a pas rejeté son peuple, n'est-ce pas? La métaphore de l'olivier de Romains 11 nous montre que Dieu a le pouvoir de regreffer les Juifs sur l'olivier qui est son peuple. Israël est tombé afin que les païens puissent être sauvés. Israël doit être sauvé, mais de quelle manière est-ce qu'Israël va être sauvé? De la même manière que nous, s'ils reconnaissent qui est Jésus-Christ, s'ils reconnaissent celui qu'ils ont percé, ils vont pouvoir être sauvés et rejoindre le peuple de Dieu d'où ils ont été retranchés présentement. Donc, Israël doit être sauvé de la même manière que le reste de l'Église, soit par la foi en Jésus-Christ. Par rapport au temple reconstruit et le retour des sacrifices, qu'est-ce qu'on a mentionné? Peut-être qu'ils vont reconstruire un temple. Mais puis c'est sûr que s'ils reconstruisent le temple parce qu'ils vont vouloir refaire le sacrifice, mais c'est sûr que ce n'est pas à travers ça qu'ils vont être sauvés. Donc, le plan de Dieu pour Israël, ce n'est pas qu'Israël retourne dans le pays, reconstruisent un temple puis refont des sacrifices pendant 1000 ans. C'est sûr que ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu est peut-être qu'Israël retourne dans son pays, qu'il reconstruise un temple et qu'il reparte sur les bases qu'il y avait, mais le plan de Dieu, c'est qu'Israël reconnaisse celui qu'ils ont percé, reconnaisse Christ et se convertisse à Jésus-Christ et ils n'auront plus à faire ces sacrifices-là. Donc, on a vu par rapport au temple aussi que ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir qui sont venues en Christ et que si le temple était reconstruit, il le serait par ignorance de la part des Juifs. C'est clair que si aujourd'hui les Juifs retournent en Israël, ils veulent redevenir une nation, ils sont une nation, là, mais je veux dire, ils veulent faire fleurir leur nation, ils veulent ramener le temple, ils veulent ramener les sacrifices. C'est clair, c'est là qu'Israël était, c'est là qu'Israël est encore aujourd'hui. Mais le plan de Dieu, quoique il peut se servir évidemment du retour d'Israël et de la reconstruction du temple, le plan de Dieu, c'est qu'Israël reconnaisse Christ et qu'il se convertisse. Et donc, advenant une conversion massive des Juifs à notre Seigneur Jésus-Christ, il est inconcevable que ces nouveaux croyants retournent à un système sacrificiel. Et je parle de ces nouveaux croyants, je ne parle pas des Juifs. Les Juifs pourraient retourner à un système sacrificiel. Mais si les Juifs se convertissaient en masse à Christ, ils ne retourneraient pas à un système sacrificiel. Ça n'aurait absolument aucun sens puisque Christ a déjà tout accompli. Et ajoutons que pour ceux qui croient que ces sacrifices n'auraient qu'une portée mémorielle, on ferait ça en souvenir d'eux. Si c'était le cas et si les sacrifices dans le mémorial, dans le millénium étaient des sacrifices mémoriales, ça ne serait pas un accomplissement littéral des prophéties de l'Ancien Testament. Donc les gens qui veulent revoir les sacrifices ou qui croient qu'Israël dans le millénium va refaire des sacrifices en disant ben c'est ça que la prophétie annonce, mais la prophétie annonce des sacrifices pour l'expiation des péchés. Donc, si c'est des sacrifices mémoriels, ce n'est pas un accomplissement littéral. Et donc, il y a une faille majeure, je pense, dans ce système d'interprétation. Maintenant, aujourd'hui, on continue un petit peu avec Israël, avec l'Église. Et en fait, on va regarder peut-être un petit peu davantage Israël. Si Israël pourrait être sauvé un jour, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-dessus? Alors, la question de la relation entre Israël et l'Église, c'est un des aspects les plus difficiles dans le royaume de Dieu. Et pourquoi? Parce que cette relation n'est pas présentée de manière explicite, de manière claire dans les Écritures. Alors, c'est un concept qu'on doit déduire. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs sortes d'interprétations, puisque c'est pas écrit clairement et on doit le déduire. Bien, il y en a qui déduisent d'une manière, il y en a qui déduisent de l'autre. OK? Et il n'y a pas de mal, entre guillemets, là-dedans. Je veux dire, il y a différents systèmes d'interprétation et ce sont tous des chrétiens, on est tous frères. OK? Maintenant, on doit se pencher sur qu'est-ce que la Bible enseigne pour essayer de non pas de se faire une idée dans notre tête de qu'est-ce que c'est, mais de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne. Bertrand, t'avais-tu un commentaire à passer? Un exemple de comment une personne peut l'interpréter. Regarde, je vais t'en donner une. Je lisais en fin de semaine, justement, un texte sur la théologie de Romains 9 à 11. N'est-ce pas? Exactement ce que j'ai enseigné la semaine dernière. Et après avoir enseigné ça, il y a un frère qui est venu me dire, « Ah, lis tel texte, tu vas voir, c'est super intéressant. » Je l'ai lu. Mais intéressant. Mais c'était une position prémillénariste, juive, messianique. C'était des juifs messianiques qui annonçaient leur position. Alors, ils prennent Romains 9 et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des suppositions. Ils partent avec une prémisse. Les autres, leur prémisse, c'est qu'Israël et l'Église, c'est deux choses complètement différentes en partant. Alors, tu vas interpréter dans ce sens-là, n'est-ce pas? Et là, pour faire passer leur compréhension, lorsque Paul décrit l'olivier qui est le peuple de Dieu, est-ce que l'olivier n'est pas le peuple de Dieu? Oui. Et qu'il y a un olivier, etc. Alors, eux vont dire, non, 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 l'olivier n'est pas le peuple de Dieu. L'olivier est l'endroit de bénédiction où l'Église est maintenant greffée dans le lieu de bénédiction. OK? Par contre, l'Ancien Testament nous décrit Israël comme étant l'olivier. Et Paul reprend cette métaphore de l'olivier en disant que c'est le peuple d'Israël. L'olivier, c'est le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Alors, pour garder leur interprétation, ils partent avec certaines prémisses. Et plutôt que de faire la démonstration de ce que le Nouveau Testament enseigne par rapport à Israël et l'Église, comme je l'ai fait la semaine dernière avec les prophéties, tu regardes une prophétie qui est destinée à Israël et tu dis, regarde, parce que là, c'est pas n'importe qui, là, c'est Pierre, puis c'est Paul, puis tu comprends-tu qu'ils l'interprètent, puis qu'ils disent c'est l'Église. Si moi, je fais pas ça, je suis allé en compte de ce que les apôtres enseignent. Et eux vont dire, non, 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 on fera pas cette démonstration-là. Et là, ils vont dire que, par exemple, l'olivier n'est pas le peuple de Dieu, mais bien un lieu de bénédiction. Et c'est sûr qu'une fois que tu as mis ces lunettes-là, tu lis le texte et tu peux pas ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai, puis c'est intéressant. Tu comprends? Mais la prémisse n'est pas nécessairement biblique, entre guillemets. Juste une dernière question, parce qu'il faut quand même que j'avance. On m'a dit de finir 5 minutes plus tôt. Vas-y. Ah, ben, de quel lieu de bénédiction ils font référence? Dans ce que j'ai lu, ils ne mentionnaient pas, là, c'était la présence de Dieu. Je te dirais, là, c'est d'être avec Dieu, c'est de faire partie de... Mais c'est pas le peuple de Dieu, parce que c'est l'Église et Israël étaient différents. Bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a différentes positions, et à ce point-ci, on doit les respecter. Moi, je suis pas d'accord, comprenez-vous, pas pantoute. Mais ça reste que si tu confesses Jésus-Christ et puis que tu crois qu'il est ressuscité des morts, la Bible me dit que tu es sauvé. Fait que c'est pas ta position eschatologique qui va faire si tu es mon frère ou si tu n'es pas mon frère. Tu comprends? C'est si tu crois en Jésus, ça va faire si tu es mon frère ou si tu n'es pas mon frère. OK? Bref, pour nous, on s'intéresse à ce que la parole de Dieu dit. Notre foi est basée sur l'enseignement des apôtres, n'est-ce pas? C'est ce qu'on déclare. Et donc, on veut aller prendre l'enseignement des apôtres, et dire qu'est-ce que les apôtres ont dit par rapport à Israël, et c'est d'où on peut tenir cette position-là que l'Israël de Dieu, c'est maintenant l'Église. Alors, le fait est qu'effectivement, la relation entre Israël et l'Église n'est pas si claire que ça. Elle doit être déduite. Heureusement, on a des enseignements des apôtres qui viennent ajouter beaucoup de poids et de crédibilité à notre interprétation. Et donc, jusqu'à présent, notre étude a démontré, et là, je fais juste une petite récapitulation, que le royaume de Dieu dans le Nouveau Testament est l'œuvre de rédemption de Dieu qui agit dans l'histoire pour vaincre ses ennemis. Vous vous souvenez, le but du royaume de Dieu, c'est de vaincre les ennemis de Dieu, le péché, Satan, la mort. En apportant aux hommes donc les bénédictions du règne de Dieu. Si j'entre dans le royaume de Dieu maintenant, je goûte déjà aux bénédictions du règne de Dieu, bénédictions qui vont être complètes dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et donc, on va essayer de garder cette approche pour interpréter de façon logique toute la question qui traite à Israël dans le Nouveau Testament. Alors, une chose est claire, c'est que Jésus a d'abord offert le royaume aux Juifs. Est-ce que c'est vrai? Jésus, ça, c'est indéniable. Jésus est arrivé et il a d'abord enseigné, ou encore une fois, offert le royaume aux Juifs, et je parle de l'Israël national dans ce cas-ci. Dans Matthieu 10, 6, Jésus dit, « N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et il répondait à la femme cananéenne dans Matthieu 15, 24, « J'ai pas été envoyé aux brebis perdues, ou plutôt je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et un peu plus tard, ou en fait un peu plus tôt, dans Matthieu 8, il parle d'Israël comme étant les fils du royaume. Or, je vous le déclare dans Matthieu 8, 11 et 12, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, donc Israël à qui il s'adresse actuellement, seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Non seulement il appelle ici les Juifs les fils du royaume, mais il leur annonce déjà que les fils du royaume vont être jetés dehors du royaume. Il y avait quand même un aspect ici intéressant à étudier. Donc, ils étaient les fils du royaume à cause de leur élection, à cause de leur histoire, à cause de leur héritage. Le Seigneur leur a d'abord offert ce qu'il avait promis. Maintenant, Israël a rejeté le royaume. Alors, quand Israël a rejeté le royaume, les bénédictions qui auraient dû leur appartenir ont été données à qui? Ou offertes à qui? Attends. Un à la fois? Aux païens, hein? OK. Je dirais pas tout de suite, là, comme tel. À ceux qui croiraient, à ceux qui vont les accepter. Exactement. Donc, j'offre le royaume. Je dis j'offre, là, c'était pas moi, là. Okay. Jésus offre le royaume aux Juifs. Les Juifs le rejettent. Jésus se tourne vers les individus. Au lieu d'offrir le salut général, et non pas qu'il ne l'a pas offert à tout le monde, il l'a offert à tout le monde, mais comme le peuple l'a rejeté, Jésus se tourne vers les individus et demande maintenant quelque chose de très, très, très différent. Il demande une foi personnelle. Alors, pardon? Il se tourne vers les nations plus loin, je vous dirais un petit peu. Okay? En fait, c'est un changement de concept. Ce que vous devez comprendre, c'est que Israël national, promesse faite à Israël national, j'offre le salut à Israël national. Israël national veut rien savoir, je ne rejetterai pas Israël national. Je vais offrir aux individus dans Israël national d'accepter les promesses, d'accepter les bénédictions. Donc, Jésus offre les bénédictions du royaume à tout le monde. Le monde les rejette, ou pas le monde, mais Israël le rejette en masse. Mais dans Israël, il y a des individus qui acceptent. Okay? Donc, Jésus offre les promesses de bénédiction du royaume, mais au lieu de dire c'est tout le monde qui va les avoir, c'est pas tout le monde qui va les avoir, c'est juste ceux qui vont les accepter. Mais encore à Israël, au moment où on est dans notre histoire. OK? Alors, Matthieu 11, verset 12. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui les ravissent. On a étudié ce texte-là déjà. Et on a aussi peut-être une autre lumière pour comprendre, sur la façon de comprendre le texte. On a vu que, dans la leçon précédente, le royaume exigeait une réponse si radicale qu'on pouvait la décrire en termes de violence. Vous vous souvenez? OK, c'était intéressant. Les violents qui entrent dans le royaume de Dieu pourraient aussi être associés aux païens qui entrent de force dans le royaume offert à Israël. Et ici, c'est une hypothèse. Je ne suis pas en train de vous dire, on a découvert le mystère, là. OK? Mais voyez-vous qu'encore une fois, Jésus mentionnait que c'était des violents qui s'en emparent. On voyait que c'était des gens qui devaient renoncer à tout pour s'en emparer. Mais on voit aussi dans le ministère de Jésus certains païens qui reçoivent les bénédictions du royaume. À qui on pense? Pardon? La Samaritaine? Oui, on pourrait dire la Samaritaine, oui, absolument. Le centenier, exactement. Oui.
Le centenier, il le dit, c'est un Romain.
Oui.
Il dit, en Israël, je n'ai vu aucune foi aussi grande que la sienne.
Oui, exactement. Jésus a même loué la foi du centenier en disant que même en Israël, il n'avait pas trouvé une foi aussi grande. Puis il y a une autre personne, certainement, là, qui vous reviendra à l'esprit, la femme cananéenne. Hein, qui insistait, puis les petits chiens là, mangent les miettes qui tombent. Quelle belle histoire, encore une fois. Alors, pour montrer que, oui, le royaume de Dieu qui est offert aux Juifs, il y a des individus non-Juifs qui ont pu en profiter à ce moment-là, par leur foi, évidemment. Continuons. Cette génération d'Israël n'a pas voulu recevoir l'œuvre du royaume de Dieu, ni au moment où Jean-Baptiste prêchait, la repentance, ni au moment où Jésus offrait les bénédictions du royaume par les différents miracles. Et dans Matthieu 11, versets 16 à 19, Jésus fait des reproches aux Juifs à ce moment-là, justement en rapport avec Jean-Baptiste et son propre ministère. Il dit, « À qui comparerais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants, assis sur une place publique et qui appellent leurs compagnons en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. » Et nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait, et l'on a dit, il est un démon. Et le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et on dit, c'est un homme qui fait bonne chair, un buveur de vin, un ami des péagers et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc, après cette comparaison-là, on a joué de la flûte, vous vous êtes pas réjoui, ou on a chanté des complaintes, vous avez pas pleuré. Après cette comparaison, Jésus se lamente sur les villes où il a fait justement ces miracles-là, et il dit que ces villes-là vont être jugées plus sévèrement au verset 24. Au verset 27 à 30, ils sont assez intéressants, verset Matthieu 11, 27 à 30, Jésus dit, « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. » Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi. Regardez le changement ici d'offre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Donc, l'invitation à recevoir les bénédictions du royaume est maintenant offerte à ceux qui vont l'accepter individuellement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. J'offre le royaume au peuple. Le peuple, il n'en veut pas, les dirigeants sont contre. On va le voir un petit peu plus loin, les dirigeants qui empêchent les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais Jésus, maintenant, se tourne vers les individus et offre un salut personnel. Et non pas national, un salut personnel. Évidemment, donnez-moi deux petites secondes. Ah, évidemment, donc effectivement, ce salut personnel-là, maintenant, va s'étendre aussi à toutes les nations. Donc, c'est un peu à ce moment-là qu'on pourrait dire que Jésus cesse d'avoir une visée nationale, non pas que... qui avait des idées, qui n'a pas été surpris. Jésus, il savait ce qui était pour se passer. Mais change un petit peu son fusil d'épaule en disant, ce salut national que vous refusez, je vais vous l'offrir de manière individuelle. Et maintenant, ce salut-là va être offert aussi à toutes les nations. Quoique Jésus avait été envoyé d'abord à Israël. Et on va le voir plus loin. C'est quand exactement que ça s'est passé, là, que le salut était offert aux païens de manière officielle, là? Aux Samaries. T'sais, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça s'est passé quand, ça? Dans les Actes des Apôtres, après la Pentecôte. Okay? Donc, c'est pour ça que je ne vous dirai pas que Jésus n'a pas offert le salut au monde entier, Mais Jésus avait été envoyé à Israël. Et c'est à Israël qui a offert cette repentance, qui a offert ce salut individuel. Mais bien sûr, les visites de Jésus étaient pour le monde. Et on le voit plus tard, évidemment, à la fin de son ministère, aller par toutes les nations, etc. Donc, cette vision était déjà là. Donc, la relation entre Dieu et son peuple était une affaire nationale dans l'Ancien Testament. Dieu ne traitait pas nécessairement avec l'individu, traitait avec la nation. Mais cette relation devient une affaire personnelle dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 3, « Produisez donc du fruit digne de la repentance, et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons pour père Abraham, car je vous le déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Quelle exhortation ici. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Matthieu 3, 8 à 10. Et Matthieu 10, 35, 37, Jésus dit, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Donc, la famille n'est plus la base de la relation entre Dieu et l'homme. Dieu, entre l'homme et Dieu, la base fondamentale de la relation entre l'homme ou de la relation de l'homme avec le royaume de Dieu, maintenant, c'est la foi personnelle. Comprenez-vous? Avant, c'était familial, c'était national. Ah, je fais partie de la grande famille d'Israël. Ah, je jouis des bénédictions de Dieu. C'est plus ça. Maintenant, tu vas avoir pour ennemi les gens de ta maison. Toi, crois. Toi, suis-moi. Comprenez-vous? Les Juifs qui voulaient un Messie roi qui les délivrerait de leur ennemi terrestre n'ont pas accepté cette nouvelle alliance que Dieu faisait avec son peuple. Sauf quelques-uns, évidemment, qui sont devenus ses disciples de Jésus, les apôtres, qui sont le noyau de ce qu'est devenu l'Église, évidemment. Matthieu 16. Ah, j'ai vraiment pas une grosse leçon aujourd'hui, ça tombe bien, puisqu'on m'a demandé de finir plus tôt. Matthieu 16, qu'est-ce que ça dit? Ah oui, au moment où Jésus, ou la déclaration de Pierre. Matthieu 16, 15, 16. « Mais vous, leur dit-il, Jésus, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et on se souvient que cette déclaration-là de Pierre était assez étonnante parce que Jésus n'agissait pas comme l'annonçaient les prophéties. Vous vous souvenez? Jean-Baptiste lui-même est allé voir Jésus en disant, « Mais es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? » Alors, le fait que Pierre déclare publiquement devant les autres, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », c'était une révélation, là. Vous comprenez? Parce que les prophéties ne laissaient pas tout à fait de voir que c'était ce genre de Messie-là qui était pour venir, premièrement. Et tout de suite après cette déclaration-là, Jésus a commencé à leur enseigner ce qui devait lui arriver, qu'il devait mourir, qu'il serait livré aux impies, qu'il souffrirait, etc. Donc, son but donc n'était pas de restaurer la nation d'Israël. Au contraire, il créerait un nouveau peuple. OK? Et ça, c'est intéressant. À partir du moment où Pierre a déclaré « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », Jésus a commencé à révéler plus ouvertement aux apôtres quel était son plan. Alors, son but, encore une fois, n'était pas de restaurer la nation d'Israël, mais plutôt de créer un nouveau peuple. Matthieu 16, 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, Jésus parle d'un nouveau concept ici, peut-être. Est-ce qu'il parle d'une Église? Le mot grec utilisé pour Église, c'est « ecclésia ». Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire? Assemblée? Ouais, je vais l'accepter. Comment? Universel? Non. Non. C'est catholique qui veut dire universel. C'est le mot catholique qui veut dire universel. Pas en grec, là. En latin, probablement plus. Appelé hors de, exactement. Donc, une église, c'est appelé hors de. OK? Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est Jésus dit à Pierre, Sur ce roc, et on pourra discuter de ce qu'est ce roc, est-ce que c'est Christ lui-même, est-ce que c'est la déclaration de foi de Pierre, etc., peu importe, mais le fait est que Christ annonce qu'il va construire son Église. Est-ce que ce mot-là que Jésus utilise est un mot nouveau? Comment? Non, c'est pas un mot nouveau. OK? En fait, le mot « ecclésia » était un mot fréquemment utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner Israël. Maintenant, évidemment, c'était pas utilisé dans l'Ancien Testament à version hébreu. C'était utilisé dans l'Ancien Testament à version grecque, hein, la version qui avait été traduite par 70 rabbins en grec, qui était la langue commune de l'époque. Aujourd'hui, c'est l'anglais. À l'époque, c'était le grec. Et comment s'appelle cette version-là? Un test, la Septante, effectivement. Pourquoi Septante? Parce que c'est 70 rabbins qui l'avaient qui l'a traduit. Donc, dans l'Ancien Testament, le mot qui représentait l'Assemblée d'Israël, c'était le mot « kahal ». Et quand la Septante a traduit ce mot-là, elle l'a traduit par le mot « ecclésia », okay, qui voulait dire « assemblée », qui désignait en fait l'Assemblée, la congrégation d'Israël. Et c'est dans ce sens aussi qu'Étienne, lorsqu'Étienne, dans Acte 7, fait son discours et parle de l'Ancien Testament, il parle de l'Assemblée qui était avec Moïse dans le désert et il mentionne le mot « ecclésia ». Il dit « l'Église qui était avec Moïse dans le désert ». Maintenant, c'est sûr que l'Église, au temps d'Étienne, au temps de Jésus, n'avait pas le sens que l'Église a aujourd'hui. C'est clair. Église, ça voulait dire appelé hors d'eux, et ça signifiait l'Assemblée d'Israël. Mais le fait que Jésus dise sur cette pierre, sur ce fondement, ou sur cette déclaration, ou sur moi-même, je vais fonder mon Église, Jésus faisait référence au peuple de Dieu. Tu es Pierre, et sur cette déclaration, je vais fonder mon Assemblée. Il y avait l'Église dans l'Ancien Testament et Jésus dit qu'il va fonder son Église, il va fonder son Assemblée, donc dans le Nouveau Testament. Ce mot était très connu, appliqué fréquemment au peuple de Dieu. Jésus manifeste donc par le choix de ses mots son intention de créer un nouveau peuple de Dieu, en remplaçant le peuple d'Israël qui avait rejeté son statut de Messie et son œuvre du royaume. Quelle est donc la relation entre le royaume de Dieu et l'Église? Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Un autre texte ici qui a fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En as-tu? Qui ont une idée, qui veulent se lancer? Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ceux qui seront sauvés à cause qu'on a osé parler de la parole vont être déliés de Satan, peut-être? C'est-tu ce que vous pensez? Oui. Puis ceux, les autres vont rester captifs. C'est une interprétation. C'est une... OK. Gérard. Chaque fois qu'on annonce l'Évangile, que quelqu'un reçoit Christ dans sa vie,
il devient une nouvelle créature.
Il devient une nouvelle créature. Et il est délié.
Et il est relié dans le royaume de Dieu. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Alors,
ce que vous délirez sur la terre sera.
La terre sera délié dans le ciel.
OK.
Alors, dans le ciel, nous sommes déliés de toute responsabilité qui se passe sur la terre.
Dans le ciel, on serait délié de toute responsabilité qui se passe sur la terre. Bon, écoute, le nouveau chrétien peut profiter, du royaume de Dieu dans sa vie. Parfait. C'est une façon de voir, OK? C'est pas si simple que ça, mais allons-y. Moi, je vous lance l'idée que, a priori, OK, Jésus dit à Paul, il n'est pas à Paul du tout, mais à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » C'est à Pierre qui parle. « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » On pense peut-être au rôle particulier que Pierre a joué dans l'ouverture du royaume aux Samaritains et aux païens. Est-ce que vous pensez à ça? OK, Pierre a reçu un rôle particulier. OK, c'est lui, avec Jean, qui sont allés vers les Samaritains, et qui ont imposé les mains et que le Saint-Esprit est descendu après la Pentecôte pour la première fois, la Judée, la Samarie et le reste du monde. Et c'est Pierre qui est allé vers Corneille, sur la demande de Dieu évidemment, pour ouvrir le royaume de Dieu aussi aux païens. Vrai? Donc, on pourrait penser que Jésus avait un rôle particulier pour Pierre. Et dans Acte 15, Pierre le mentionne lors de la conférence de Jérusalem. Il dit « Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » OK, donc Paul, Pierre lui-même plutôt était conscient que Dieu avait fait un choix et que c'était par sa bouche que les païens avaient cru. OK? Donc, le fait que Paul... pourquoi je dis tout le temps Paul? Pour moi, je n'ai pas assez dormi cette nuit. Pierre! OK? Il y a des matins comme ça où c'est plus tough. C'est plus difficile. C'est moins clair dans notre tête. Donc, il y a des matins... Paul... Ah, aidez-moi quelqu'un, Seigneur, qui me délivrera de ce corps de mort. Pierre, non, je suis en avance pour ça. En fait, je cherche à gagner du temps. Pierre était conscient que Dieu lui avait confié un rôle particulier dans celui d'aller annoncer le salut aux païens. Et on l'a vu que Pierre aussi est celui qui l'a fait avec les Samaritains. Mais on peut trouver donc un autre sens au propos de Jésus dans le fait que le Seigneur remettait aux apôtres les clés de la connaissance permettant d'entrer dans le royaume de Dieu. OK, donc que ce soit le fait que Pierre avait reçu un ministère particulier pour aller prêcher aux Samaritains et aux païens, ou bien que ce soit les clés de la connaissance, et d'où vient cette idée de clé de la connaissance? Bien, ça nous vient de Luc 11, mais juste avant, juste expliquer mon idée davantage, les clés du royaume de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir, et je cite ici George Ladd, le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les portes introduisant aux bénédictions de l'âge à venir, seront confiées aux apôtres de l'Église que notre Seigneur va créer. Le royaume de Dieu n'est plus à l'œuvre dans le monde à travers Israël, mais il opère maintenant par l'intermédiaire de l'Église. Et une autre parole donc du Seigneur confirme cette interprétation-là, que les clés que Jésus a remis aux disciples à ce moment-là, aux apôtres, étaient les clés de la connaissance pour entrer dans le royaume de Dieu, dans Luc 11, 52, lorsqu'il parle des docteurs de la loi. Alors, il dit, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé les clés de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qu'ils voulaient. » Donc, les clés de la science qui ouvriraient les portes du royaume de Dieu avaient été confiées au chef du peuple juif. Hein? Il s'agissait de la compréhension et de l'interprétation de l'Ancien Testament qui aurait dû amener les Juifs à comprendre et à reconnaître que Jésus était le Messie, qui aurait dû les amener à réaliser que les promesses étaient en train de s'accomplir et que le royaume de Dieu était arrivé. Et c'est ce que Paul exprime lorsqu'il dit « Les oracles de Dieu leur ont été confiés dans Romains 3 ». Il disait « Les Juifs, ils ont reçu un avantage extraordinaire. Ils ont reçu les clés du royaume à quelque part, puisqu'il leur dit que... les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donnez-moi deux secondes, il me semble que j'avais un autre texte. Ils disent qu'ils ont reçu... je ne l'ai pas écrit, c'est plate. Vous voyez ce que je veux dire dans l'ensemble? Vous souvenez-vous du texte où Paul fait mention des avantages des Juifs qui ont reçu les oracles de Dieu? C'est la suite, il faudra aller lire la suite de Romains 3, 2, je suis sûr que c'est là. En fait, ils ont reçu un privilège considérable, mais les scribes ont enlevé les clés de la connaissance, ils interprétaient les Écritures d'une manière telle qu'ils éloignaient de Christ plutôt que de conduire à lui. Et c'est pourquoi les Juifs, évidemment, ont rejeté le royaume que Jésus leur proposait et qu'ils empêchaient d'entrer ceux qui voulaient. C'est pourquoi ils ont rejeté, donc les scribes plutôt, les pharisiens ont rejeté le royaume que Jésus leur proposait et empêchaient d'entrer ceux qui voulaient. Jésus confie donc aux apôtres de l'Église, et à l'Église plutôt, la clé de la connaissance qui était auparavant tenue par Israël et qui ouvre les portes du royaume. Donc c'est une façon intéressante, je pense, de voir le texte. C'est aussi ce qu'enseigne la parabole du vigneron. Alors là, voyez-vous, on a un texte qui est obscur. On l'interprète avec un texte qui est plus clair dans Luc 52, et on le confirme avec un autre texte. Alors, voyez-vous, lorsqu'on interprète la parole de Dieu, c'est important de se souvenir de ces principes-là. C'est la parole de Dieu qui doit interpréter la parole de Dieu. On prend pas un texte obscur et essayer de le comprendre avec d'autres versets obscurs. Le texte qui n'est pas clair, on essaie de l'éclairer avec d'autres textes qui sont plus clairs. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, dans notre interprétation. Lorsque j'envoie l'interprétation la première fois, okay, lorsque je vous dis ici que les clés du royaume offertes à Pierre et aux disciples à ce moment-là seraient les clés de la connaissance. Vous êtes d'accord avec moi que je suis en train de faire une interprétation, là? C'est pas écrit ça clairement dans le texte, là. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est une hypothèse que je lance, là. Je suis pas en train de vous dire, voici, c'est ça qui est écrit. Maintenant, une fois qu'on a interprété ce texte-là de cette manière-là, en fait, je voulais interpréter de deux manières. Je vous ai expliqué que ça pouvait être Pierre qui est allé vers les Samaritains, vers les païens. En fait, c'est ma compréhension à moi, c'est ce que je pense que le texte veut dire. Là. Mais là, il nous amène dans un autre endroit, puis on se dit, bon, OK, c'est ça son prémisse, c'est ça son idée. Mais il l'appuie sur quoi pour me le faire comprendre? Il s'appuie sur Luc 11, 52 plutôt, qui parle des docteurs qui ont enlevé la clé de la connaissance. Ah, tu dis, OK, il y a un lien, c'est intéressant. Et là, on termine avec un autre texte, Matthieu 21, 43, qui dit, « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. » Donc, cette idée que les clés du royaume ont été enlevées et ont été données à quelqu'un d'autre est reprise dans la parabole du vigneron. Et donc, on se retrouve avec une interprétation qui, pour être honnête, peut être encore discutable. Pour moi qui va vous dire là, que cette interprétation-là de l'idée des clés, c'est exactement ça que ça veut dire. Je crois personnellement, encore une fois, que la première interprétation est plus directe, plus claire, plus facile, plus c'est fini, c'est réglé, c'était Pierre et tout ça. Mais la manière ici qui est amenée est appuyée par d'autres versets et donc on peut accepter cette interprétation-là. Gérard? Oui, c'est complémentaire, exactement. C'est pour ça que je vous en parle. Si j'étais contre l'idée, je vous en parlerais pas.
Oui.
Oui, oui. Oui. Non, non, c'est clair. Moi, je... Exact. Alors, c'est ce que je vous dis. Alors, il y a une interprétation qui est comme facile, on dit, ben oui, c'est clair, Pierre avait un rôle particulier, et c'est appuyé aussi par Acte 15, mais l'idée que le royaume est enlevé aux Juifs et donné à l'Église est appuyée par Luc 11, 52 et par Matthieu 21, donc la parabole du vigneron. C'est pourquoi, donc, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Alors, on a ici une notion intéressante que une nation qui en rendra le fruit implique quoi? Si je l'enlève à cette nation et je le donne à cette nation, ça implique un nouveau peuple, n'est-ce pas? Avant, c'était cette nation-là, maintenant, c'est cette nation-là. Et littéralement, le mot qui est écrit là, c'est « ethnos », d'où on tire le mot « ethnie », exactement, qui est traduit 64 fois par « nation » et 93 fois par « les gentils », les païens. Donc, la parabole du vigneron est très claire. Le peuple d'Israël devait hériter du royaume, mais le royaume est maintenant donné à un autre peuple. Un peuple de croyants qui est composé de juifs et de non-juifs, qui est l'Église, et qui est composé de gens qui ont une foi personnelle, une foi individuelle, et non pas parce que tu es associé à un groupe. Donc, ce qu'on pourrait conclure ici ce matin, c'est que c'est pas parce que les gens viennent à l'Église qui sont sauvés. Et vous allez tous être d'accord avec moi, évidemment. Hein? Tandis que dans l'ancienne alliance, je faisais partie du peuple d'Israël, je me faisais circoncis, j'entrais dans la communauté, et là, j'avais droit à toutes les bénédictions, à toutes les promesses. Dans la nouvelle alliance, c'est pas comme ça. C'est pas... Autant c'est plus un peuple national, autant c'est pas un groupe comme l'Église qui est maintenant le peuple de Dieu. Donc, et là, comprenez-moi, là, je me rends compte que je dis des affaires qui pourraient être très mal interprétées. Là. Je vais préciser ma pensée. C'est pas l'Église en tant qu'entité qui est sauvée, c'est l'Église en tant qu'individu croyant. Comprenez-vous? Alors, c'est pas en joignant une Église ou en joignant l'Église qu'on est sauvé. C'est en mettant notre foi personnelle en Jésus qu'on est joint à la véritable Église. Est-ce que vous comprenez cette nuance-là? OK? Pfiou. Ce que je voudrais pas, surtout que je suis enregistré, je voudrais pas que ça se retrouve n'importe où puis qu'ils disent Stéphane a dit que l'Église c'était pas ça. Non, non, non. Hein? J'ai quand même une réputation à maintenir. D'accord. Donc, un peuple de croyants composé de juifs et de non-juifs, un peuple de croyants. C'est sur cette base personnelle et individuelle qu'on est maintenant, qu'on entre dans l'Église. Et encore une fois, c'est ce que confirme l'apôtre Pierre dans son équipe, dans son épître. Pierre, quel lapsus toute la journée, hein? Ça n'a quasiment pas de sens. Ça achève, ben oui. Une chance que vous avez des notes, oui. Suivez mes notes. En fait, la prochaine fois, je vous donne mes notes, puis il n'y aura pas de cours. Il en reste un, hein? Il reste seulement un cours la semaine prochaine. C'est merveilleux quand même. Phew! Les vacances après ça. Oui, c'était merveilleux quand je l'ai commencé. Mais la fin d'une chose est meilleure que son commencement. C'est pas ça que l'Ecclésiaste dit. La fin d'une chose est meilleure que son commencement. Bref, trêve de verset hors contexte. Revenons ici. Donc, c'est ce que confirme l'apôtre Pierre dans son épître, dans 1 Pierre 2, 9. Elle confirme que nous sommes maintenant le peuple de Dieu ici. Vous, par contre, en parlant de l'Église, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Est-ce qu'il parle des Juifs ici? Non, il parle de l'Église, clairement. Un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, donc c'est sûr qu'il ne parle pas des Juifs ici, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et qu'est-ce qu'il est en train de citer, Pierre, ici? Loami puis Louama, hein? Osée 1 et 2. Osée chapitre 1 et chapitre 2, qui annonçait justement que les païens étaient pour faire partie du peuple de Dieu. Donc, encore une fois, le Nouveau Testament nous enseigne que l'Église est le peuple de Dieu, l'Israël dont parlait le prophète Osée. Osée parlait d'Israël et Pierre, ici, l'applique à l'Église, encore une fois. Donc, Dieu n'a plus affaire avec une nation d'après la chair, mais à une nation sainte. L'Église, sur la base d'une foi salvatrice personnelle en Jésus, le Fils de Dieu. Le royaume de Dieu qui, dans l'ère de l'Ancien Testament, était manifesté en Israël, opère maintenant dans le monde par l'Église. Il n'y a donc qu'un seul peuple de Dieu. Et c'est ce que démontre aussi l'exemple de l'Olivier. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était constitué des enfants d'Israël. Les païens pouvaient entrer dans ces bénédictions-là, mais uniquement en acceptant les termes de l'Alliance de Moïse. Dans le Nouveau Testament, les enfants d'Israël ont été retranchés de l'Olivier, c'est-à-dire du peuple de Dieu, à cause de leur incrédulité. Les hommes de toute nation, y compris la nation d'Israël, font maintenant partie du peuple de Dieu par la foi. Et quand la nation d'Israël ne sera plus incrédule, elle réintégrera le peuple de Dieu à cause de sa foi, et alors tout Israël sera sauvé. Et le dernier point que je vais faire ce matin, c'est justement essayer d'expliquer qu'est-ce que veut dire tout Israël sera sauvé. Alors, on l'a vu la semaine dernière aussi, donc dans le contexte, tout Israël ne peut vraiment pas dire l'Église. Okay. Tout Israël ne peut pas vouloir dire l'Église et faire abstraction de la nation d'Israël. Ça ne peut pas être ça. Okay. Cette notion de tout Israël implique l'Israël national et peut signifier deux choses, soit la vaste majorité de l'Israël national ou la vaste majorité de l'Israël national joint à l'Église. Donc, tout Israël peut être soit la majorité du peuple d'Israël qui va vivre à ce moment-là, ou encore la majorité du peuple d'Israël qui va être à ce moment-là avec l'Église, parce qu'ils vont avoir cru. C'est comme ça que tout Israël va être sauvé. Donc, l'Israël spirituel présent avec l'Israël national qui va venir joindre l'Israël spirituel. D'accord? Regardons le texte ensemble dans Matthieu 23, 37-39. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu? Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ces paroles de Jésus font référence à un jugement qui va venir sur Jérusalem, qui est le symbole d'Israël. Deux versets plus loin, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et ce jugement est historiquement arrivé en l'an 70 lorsque les Romains ont détruit la ville et le temple, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'était le mot de la fin? Jésus dit, ce sera la dernière visite de Dieu, en fait, c'est pas Jésus qui dit ça, ce sera la dernière visite de Dieu en Israël jusqu'au jour où Israël reconnaîtra le Christ comme le Messie et dira, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, tout Israël doit donc être sauvé, puisqu'il est écrit qu'à un moment donné, Israël vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Un autre texte intéressant où Jésus nous parle de la foi du jugement de Jérusalem et de la fin des temps se trouve dans Luc 21-24. Il dit, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Ça, c'est un texte qu'on n'a pas vu encore dans notre étude sur Israël et il est fondamental. « Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Ce passage annonce que le jugement d'Israël va durer jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc là, présentement, il y a un jugement sur Israël, mais que ce jugement-là a une fin prévue. À un moment donné, Dieu va restaurer Israël, son peuple, à qui il avait fait ses promesses. Comment ça va se faire? Bougez pas. Mais donc, ce jugement-là va durer jusqu'à quand? En fait, c'est ça la question. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, c'est-à-dire jusqu'à ce que Dieu en ait terminé avec le salut des païens. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 11, avec l'histoire de l'Olivier. En Romains 11, 25, « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël, partiel parce qu'il y avait quand même des Juifs qui s'étaient convertis à Jésus-Christ, on s'entend, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Le mot « jusqu'à » implique nécessairement que ce jugement aura une fin. Alors, tout Israël va être restauré. Excusez-moi, il manque une feuille. Laissez-moi juste vérifier. La voilà. Donc, dans le Nouveau Testament, le salut d'Israël... Donne-moi une seconde. Dans le Nouveau Testament, le salut d'Israël constitue une partie essentielle de l'unique plan de rédemption de Dieu. Il ne faut pas considérer l'œuvre du Saint-Esprit comme deux plans séparés distincts, mais comme deux étapes du plan rédempteur de Dieu. Donc, à cause de ce verset, à cause du fait qu'on s'attend à ce qu'Israël soit sauvé en tant que nation... Il y en a qui pensent que Dieu a un plan pour l'Église puis qu'il y a un plan pour Israël. C'est une erreur. C'est pas parce que Dieu a un plan pour Israël encore aujourd'hui que ces deux plans séparés, puisqu'on l'a déjà dit, le plan de Dieu pour Israël, la nation, c'est qu'elle se convertisse à Jésus-Christ et qu'elle joigne le peuple de Dieu qui est l'Olivier, qu'elle soit regreffée à l'Olivier et non pas que l'Église soit enlevée puis que là Dieu traite avec Israël pendant 1000 ans en disant voilà, vous allez refaire donc des sacrifices, tiens, mémoriels puis on va être content. OK, c'est pas tout à fait comme ça. C'est un seul plan de Dieu, mais oui, il y a des étapes. Jérusalem, il y a un jugement jusqu'à ce que la période des nations soit accomplie. Après ça, Dieu va traiter avec Israël. Mais la manière que Dieu va traiter avec Israël, c'est qu'il veut l'amener à reconnaître encore une fois celui qu'ils ont percé. Et là, je dois terminer, puisqu'il est moins 5, avec une brève conclusion, petit recap de ce qu'on a vu ce matin. Jésus, donc, a bien offert le royaume aux Juifs, c'est indéniable. Ce royaume n'était pas comme ils l'attendaient, alors ils l'ont rejeté. Premier point. Deuxièmement, le rejet du royaume de la part d'Israël était prophétisé dans l'Ancien Testament, mais comme un mystère, c'était quelque chose qui était caché, c'était pas clair. Seul le mystère de Jésus, ou le ministère plutôt de Jésus, nous a permis de comprendre le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Ce rejet du royaume a permis aux païens comme aux juifs d'entrer dans le royaume sur la base de la foi plutôt que sur la base de la nationalité. Un point majeur. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Après le temps des nations, Israël national doit se convertir à la foi en Jésus-Christ et alors tout Israël sera sauvé.